fait, ce que j'ai vu l'année dernière. Et Philippe a un peu annoncé Joseph. Alors, il l'a un peu survendu parce qu'on n'aurait pas le temps de traiter l'histoire de Joseph ce soir. Ce serait pourtant intéressant. Mais on va, en fait, la parcourir un petit peu sous un angle. Un angle, un frère allemand, Gerrit Zetzer, qui a écrit un très bon article il y a plus d'un an dans un journal allemand. Et j'ai repris un peu ce travail. Et on va commencer, en fait, par un verset du Nouveau Testament, un verset d'horticulture, une sorte de racine, bourgeon. C'est dans Hébreux 12, verset 15. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15. Faire au 14 déjà, Hébreux 12, 14. Poursuivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut, ne vous trouble, et que par elle plusieurs ne soient souillés. Des racines d'amertume bourgeonnant en haut. Alors c'est de l'horticulture parce que ça prend racine, et si ça prend racine, il y a un moment où ça sort. Et ça bourgeonne. Et on pourrait se dire, mais comment on pourrait éviter que l'amertume prenne racine. Comment éviter qu'elle prenne racine? Si elle ne prend pas racine, eh bien, ça ne va pas bourgeonner. Et alors, l'idée, c'est de parcourir la vie de Joseph et de regarder quelques remèdes, quelques antidotes à cette amertume. Donc, on va regarder l'exemple de la vie de Joseph pour une vie sans amertume. Et on commence évidemment en se rappelant comment ça a commencé, l'histoire de Joseph. On sait qu'il a eu des rêves. On sait que ses rêves ont été mal pris par sa famille. Et on peut se dire que finalement Joseph, après avoir raconté le premier rêve et s'être mal fait recevoir, au fond il a été courageux d'annoncer le second rêve. Certains disent qu'il est naïf, mais je pense que c'est intéressant de voir qu'il est courageux de parler malgré la pression et malgré le fait qu'il sait que ses frères vont lui tomber dessus. Et ils vont tellement lui tomber dessus que, ensuite, après ce deuxième rêve, ils vont être extrêmement jaloux. Ils vont le comploter contre lui. Ils vont vouloir le faire mourir, finalement on va le sauver de cette mort et puis on va le vendre. Et voilà que ce Joseph qui a été courageux d'être témoin de la parole de Dieu, parce qu'il avait bien compris que c'est Dieu qui lui parlait. Il y a 7 rêves dans la Genèse, il y en a 6 dans l'histoire de Joseph et ils viennent tous de Dieu. Et donc il a eu le courage de parler malgré le contexte familial, où ses frères ne pouvaient pas lui parler paisiblement. C'est difficile dans une famille, quand on ne peut plus se parler paisiblement. Et c'était dans ce contexte-là qu'il a eu le courage de parler, le courage de témoigner, et ce courage, malheureusement, lui a voulu l'opposition, le complot. On veut le faire mourir, finalement on le sauve, et on va presque le faire mourir en le jetant dans un trou, et il va être vendu. Quelle blessure pour Joseph. Quelle raison d'amertume. Quelle raison d'être blessé par ses frères, par sa famille. Et en fait, dans ce contexte-là, et on prend son histoire maintenant au chapitre 39 de la Genèse, on le prend au moment où il arrive en Égypte. Et dans ce contexte, blessé, comment réagit-il ? Genèse chapitre 39, verset 1. Et Joseph fut amené en Égypte, Et Potiphar, officier du pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta de la main des Ismaélites qu'il avait amené. Et l'Éternel fut avec Joseph, et il était un homme qui faisait tout prospérer. Et il était dans la maison de son seigneur, l'Égyptien. Et son seigneur vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait prospérer en sa main. Et Joseph trouva grâce à ses yeux, et il le servait. Et Potiphar l'établit sur sa maison, et il mit entre ses mains tout ce qui était à lui. Et il arriva, depuis qu'il l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qui était à lui, que l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui était à lui dans la maison et au champ, et il laissa aux mains de Joseph tout ce qui était à lui. Il ne prenait avec lui connaissance d'aucune chose sauf du pain qu'il mangeait. Donc il est travailleur, il est consciencieux, et cette blessure immense de la part de ses frères, en fait, au lieu de se morfondre, au lieu de s'apitoyer, au lieu de s'enfoncer complètement dans sa souffrance, en fait, il va servir. Il va se mettre au boulot, il va remplir ses journées de travail pour ce maître, et effectivement, ce maître va le repérer, le récompenser dans son cas, et le faire progresser dans la maison avec beaucoup de responsabilité. Donc le premier conseil contre l'amertume dans cette première scène, c'est de ne pas s'apitoyer sur son propre sort, mais de se mettre au boulot. De ne pas s'apitoyer sur sa souffrance, mais d'être au service de l'autre. Et en fait, on est dans le service de l'autre, on est fidèle à notre tâche, et dans ce cas-là, Dieu le bénit et fortifie son espérance, fortifie sa vie. Première leçon. La seconde arrive tout de suite, parce que verset 6, « Or Joseph était beau de taille et beau de visage. Et il arriva après ces choses, verset 7, que la femme de son Seigneur leva ses yeux sur Joseph, et elle dit « Couche avec moi ». Et il refusa. Et dit à la femme de son Seigneur, « Voici mon Seigneur, ne prends avec moi connaissance de quoi que ce soit dans la maison. Il a mis entre mes mains tout ce qui est à lui. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Et comment ferais-je ce grand mal? Et pécherais-je contre Dieu ?» Là, il a un bon repère. On ne fait pas le mal en soi, le mal contre Potiphar, contre mon patron, contre celui qui me fait confiance. Et puis, pas contre Dieu. Et on voit que la motivation pour ne pas pécher, c'est l'amour. La motivation pour ne pas pécher, ce n'est pas parce que c'est interdit. La motivation, c'est « mais il me fait tellement confiance ». C'est de l'amour, ça, c'est de la confiance. Et puis, c'est Dieu. Comment ferais-je ce grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Et il arriva, comme elle parlait à Joseph jour après jour, qu'il ne l'écouta pas pour coucher à côté d'elle, pour être avec elle. Et il arriva un certain jour qu'il entra dans la maison pour faire ce qu'il avait à faire, toujours dans son activité. Et qu'il n'y avait là dans la maison aucun des hommes de la maison. Et elle le prit par son vêtement, disant « Couche avec moi !» Et il laissa son vêtement dans sa main et s'enfuit et sortit dehors. Et il arriva quand elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et s'était enfui dehors, qu'elle appela les hommes de la maison et leur parla, disant « Voyez, on nous a amené un homme hébreu pour se moquer de nous. On » Qui ça? C'est son mari, hein? « On nous a amené un homme hébreu pour se moquer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi. Et j'ai crié à haute voix. Et il est arrivé quand il a entendu que j'ai levé ma voix et que je criais, qu'il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui et est sorti dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son seigneur vînt à la maison. Et elle lui parla selon ses paroles, disant « Le serviteur hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se moquer de moi. Et il est arrivé, comme j'ai levé ma voix et que je criais, qu'il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et quand son seigneur entendit les paroles de sa femme, qu'elle lui disait « C'est de cette manière que ton serviteur a agi envers moi. » Il arriva que sa colère s'enflamma. Et le seigneur de Joseph le prit, et il aurait dû le tuer, c'est un esclave. Et il l'a mis dans la tour, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il est très en colère, le Potiphar, le patron. On ne sait pas s'il est en colère contre la situation, en disant « je suis en train de perdre mon meilleur homme ». S'il est en colère contre sa femme, s'il est en colère contre lui, en tout cas, il n'a pas d'issue. Mais on voit que cette femme, qui accuse aussi un peu son mari derrière, était complètement pas droite, un vrai serpent. Et peut-être que Potiphar s'en doutait, on verra après un petit peu Potiphar. Mais voilà Joseph, il est souffrant, la blessure de ses frères, il s'est un petit peu refait. Et on peut avoir une tentation parfois, quand on souffre de quelque chose, quand il y a quelque chose qui nous contrarie, quand il y a quelque chose qui nous a pesé, de se défouler, de se dire « bon ben alors, si c'est comme ça, je vais accepter un truc, je vais ». Et dans ce cas-là, il aurait pu, entre guillemets, se vautrer ou aller dans le péché. Et il y a ce risque de compenser une amertume, de compenser une blessure, de compenser une contrariété par « bon, ben alors si c'est comme ça, allez, je me laisse aller ». Et on sait que ça va mal se terminer, bien sûr, si on laisse aller. Et dans ce cas-là, on a entendu le « il refusa », qui est très fort, et ensuite « il s'enfuit ». Et cette fuite, elle est très virile. Elle est très masculine, elle est très courageuse. Dans les Proverbes, il nous est raconté l'histoire de ce jeune homme qui est tenté par une femme et qui ressemble à quoi à la fin ? À un bœuf qui va à la boucherie. Un bœuf, c'est castré, c'est pas un mâle. Le mâle, le courageux, c'est Joseph. Le jeune homme de Proverbes, Proverbes chapitre 7, verset 22, c'est un bœuf qui va à la boucherie parce qu'il s'est fait emporter par cette femme. Ne compensons donc pas, la deuxième leçon, ne compensons donc pas des situations difficiles par des plaisirs malsains qui finalement nous mettront par terre et seront plus amers que la mort, Ecclésiaste 7. Et il se retrouve donc en prison de façon injuste, le voilà mis en prison, mais dès qu'il le peut, il se rend utile. Puisque, arrivé dans cette prison, verset 21, chapitre 39-21, « Et l'Éternel était avec Joseph, et il étendit sa bonté sur lui, et lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la tour. » Donc, pas le chef des gardes, qui est Potiphar, mais le chef de la tour, qui est chef de la prison, donc qui est sûrement un officier en dessous de Potiphar. « Et le chef de la tour mit en la main de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la tour, et tout ce qui se faisait là, c'est lui qui le faisait. » Le chef de la tour ne regardait rien de tout ce qui était en sa main, parce que l'Éternel était avec lui, et ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait prospérer. Et il arriva après ces choses que l'échanson du roi d'Égypte et le panetier péchèrent contre leur seigneur, le roi d'Égypte. Donc deux autres officiers de la cour. Donc on commence à en connaître trois officiers de la cour, le chef des gardes, le chef des panetiers, le chef des échansons. Trois chefs de la cour. Et Pharaon fut irrité contre ces deux officiers et il les mit sous garde dans la maison de qui ? Du chef des gardes, donc du premier, dans la maison de Potiphar. D'accord ? Dans la tour, dans le lieu où Joseph était emprisonné, et le chef des gardes, qui ça ? Potiphar. Potiphar. Le commis aux soins de Joseph, les commis aux soins de Joseph, et il les servait. Donc, monsieur Potiphar, il devait plus faire confiance à Joseph qu'à sa femme. Mais on comprend bien qu'il était coincé. Il ne peut pas non plus renvoyer sa femme, donc il était coincé, mais on comprend maintenant pourquoi il l'a mis dans cette tour et il ne l'a pas tué. Et on voit qu'il lui fait tellement confiance que dès que ses deux collègues de la cour se font emprisonner, tout de suite, il les confie. Lui, personnellement, il confie ses deux collègues à ce gars-là, à ce Joseph-là. Et Joseph, qui se fait envoyer dans la tour de façon épouvantablement injuste avec ce stratagème de la femme de Potiphar et ses accusations mensongères contre lesquelles il ne pouvait rien en tant qu'esclave, eh bien, tout de suite, il est au service. Tout de suite, dans sa souffrance, il s'occupe des autres. Il s'occupe des autres. Quand nous sommes chargés, si on veut éviter l'amertume, eh bien, on s'occupe des autres. Non seulement ça leur fait du bien, mais nous, ça nous distrait aussi de notre souffrance. Si je suis chargé, je m'occupe de l'autre pour lui son bien, mais je l'en profite aussi parce que mes yeux s'écartent de ma propre souffrance. Alors, il s'occupe effectivement de ces hommes et si on sait qu'ils vont avoir des songes et des rêves, ces deux officiers. Et Joseph les voit, verset 6, Joseph vint vers eux le matin, il regarda, et voici, ils étaient tristes. Donc il est tellement tourné vers les autres, qu'il repère même leurs états d'âme, et il a cette douceur même de s'approcher, d'interroger les officiers du Pharaon qui étaient avec lui sous garde dans la maison de son seigneur, disant, mais pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Et ils lui dirent, nous avons songé un songe, il n'y a personne pour l'interpréter. Et Joseph leur dit, les interprétations ne sont-elles pas à Dieu? Je vous prie, racontez-moi vos songes. Lui qui a eu des songes, lui qui les a sûrement compris, ses propres songes, mais qui ne savait pas ce que ça voulait dire, le voilà au fond d'une prison, et bien dans sa souffrance, au lieu de se concentrer sur sa souffrance, il s'occupe des autres, il prend soin d'eux, il pose une question, et quand il sent qu'il y a un besoin, eh bien, il donne gloire à Dieu tout de suite. Là, c'est Dieu qui va interpréter, c'est Dieu qui peut donner quelque chose. Racontez-moi vos songes. Donc, il raconte les songes, et on arrive à ce moment un peu pathétique, verset 12, où Joseph dit au chef des échansons, donc celui qui s'occupait du vin, « Voilà l'interprétation de ton songe, les trois sarments, ce sont 3 jours, encore 3 jours, et le Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ton poste, et tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main, selon l'ancienne coutume, quand tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras dans la prospérité, et use, je te prie, de bonté envers moi, et fais mention de moi au Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. » Car j'ai été volé du pays des Hébreux, et ici non plus je n'ai rien fait pour qu'on me mît dans la fosse. Et verset 21, le jour de l'anniversaire du Pharaon, il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans son office d'échansons, et il mit la coupe dans la main du Pharaon, et il pendit le chef des panetiers, selon que Joseph leur avait interprété. Mais le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph et l'oublia. Ça fait 10-11 ans qu'il a eu ses rêves, puisque là, on sait qu'il a environ 28 ans, puisque dans 2 ans, il va être appelé à la cour et il aura 30 ans, donc il a environ 28. Et comme il avait 17 à peu près au moment des rêves, eh bien, on est 11 ans plus tard. Et voilà quelqu'un qui a un rêve et qui lui dit dans 3 jours. Lui doit attendre 11 ans et il fait l'annonce à quelqu'un, c'est pour dans 3 jours. Lui, il est prisonnier dans la tour de façon injuste, peut-être depuis quelques mois ou années, on ne sait pas. Et il annonce la liberté. Donc il annonce pour dans 3 jours la liberté. Lui, ça fait 11 ans. Et il est en prison. Donc là, il y a un autre secret pour que l'amertume ne prenne pas racine. C'est aussi de finalement souhaiter à l'autre ce qu'on désirait soi-même, peut-être. C'est se réjouir du bonheur de l'autre, même si nous, on aimerait aussi ce bonheur-là. Et il a cette façon d'être tourné vers l'autre, de lui annoncer sa liberté pendant 3 jours, lui qui aurait bien aimé aussi la liberté, d'ailleurs il le dit, mais si tu peux me faire sortir de là, Donc ça lui pèse, mais il lui annonce quand même ça. Et c'est pour dans 3 jours, il lui annonce la liberté. Donc sommes-nous prêts à offrir à d'autres ce que nous espérons pour nous-mêmes ? Pouvons-nous nous réjouir avec ceux qui se réjouissent ? Ce sera une protection contre l'amertume. Et dans cette scène, outre ce côté d'annoncer quelque chose qu'il avait envie pour lui-même à l'autre, il y a beaucoup de discrétion de la part de Joseph. Beaucoup de discrétion. Parce que vous remarquerez que quand il raconte son histoire, en fait, il est très discret. Il ne dit pas « j'ai été vendu par mes frères », il dit « j'ai été volé du pays des Hébreux ». Sous-entendu, on m'a arraché de là-bas, alors on n'aurait pas du tout dû m'arracher. J'ai été volé du pays des Hébreux, et il dit, verset 15, « Et ici non plus, je n'ai rien fait pour qu'on me mît dans la fosse. » Il ne dit pas « la femme de Potiphar », et il ne dit pas « monsieur le chef des gardes ». Beaucoup de discrétion sur les gens qui lui ont fait du mal. Parce que si on veut entretenir le non-pardon, si on veut entretenir la colère, si on veut que l'amertume, elle prenne racine et qu'elle bourgeonne après, eh bien, on va ressasser aussi celui, celle qui m'a fait du mal. Et encore pire, si c'est quelqu'un de proche. Dans son cas-là, il y avait le côté, c'était son patron qui lui faisait tant confiance, et c'est quand même lui qui le jette en prison. Bien sûr qu'il lui fait encore confiance, mais il est quand même en prison. Et puis cette femme, il dit rien. Immensément discret dans sa souffrance. Souvent, quand on souffre, on a envie de tout étaler, de tout raconter. Et éventuellement, on va même ressasser et on va même colporter des choses sur des personnes qui nous ont fait du mal. Beaucoup de discrétion, et ça aussi, c'est une protection contre l'amertume. Parce que si je colporte les mauvaises actions de ceux qui m'ont fait du mal, eh bien, j'entretiens la chose, alors que si je les protège, je prépare aussi peut-être un terrain qui sera le terrain du pardon et peut-être de la réconciliation. Donc on continue dans notre parcours et dans nos quelques leçons. Vous connaissez la suite de l'histoire, c'est le pharaon qui va avoir un rêve, qui va avoir deux rêves, et ça crée un petit choc, un petit électrochoc au chef des échansons. qui commence à être un peu courageux et à dire « je rappelle mes fautes, effectivement j'avais péché et voilà, il y avait un jeune hébreu qui était dans cette prison et qui avait interprété verset 13, 41 verset 13, il arriva comme il nous avait interprété, ainsi il était advenu, moi le pharaon me rétablit dans mon poste et lui il le pendit. Et le pharaon envoya et appela Joseph, et on le fit accourir de la fosse, et il se rasa et changea de vêtements. » Donc on ne fait pas la réunion ce soir sur les vêtements, mais enfin il y a quand même une réunion extraordinaire à faire sur les vêtements. Les 4 vêtements de Joseph, et à les comparer avec les vêtements du Seigneur Jésus, enfin ça c'est pour l'année prochaine, c'est très très bien. Mais c'est quand même la deuxième fois qu'on le tire d'un trou, d'accord ? Donc, vous savez que quand, dans l'Ancien Testament, on essaye de trouver des symboles de la résurrection, il y en a plusieurs. Par exemple, il y a les deux oiseaux. Alors, pour avoir une résurrection d'oiseaux, il en faut deux. Alors, on en tue un, il y a son sang, et puis on met le sang sur l'autre, et après, on fait s'envoler l'autre. Donc, c'est dans la loi de la purification du lépreux, magnifique mise en scène, on va dire, pas un trucage, mais oui, une mise en scène d'une résurrection avec un oiseau mort et un autre qui s'envole, qui est vivant. Et bien là aussi, on a avec ces deux trous, le trou quand il était dans la fosse sans eau, quand ses frères l'ont jeté dans cette fosse, dans cette citerne, au fond de la citerne, et bien c'est comme s'il était mort au fond de cette citerne. D'ailleurs, certains voulaient le tuer. Mais on l'a quand même sorti et vendu, et finalement c'est aussi ça qui l'a sauvé. Et vous vous souvenez bien sûr qui a proposé de le vendre ? C'est Judas. Donc c'est quand même Judas qui lui a sauvé sa peau. D'accord ? Donc il est sorti une première fois d'une fosse pour vivre. La fosse où on l'avait jeté, ses frères, sa race l'a jeté. maintenant, on a une deuxième fosse qui est la prison, et il l'appelle une fosse, pas pour rien, verset 15, chapitre 40, c'est un autre trou symbolique, enfin, c'était peut-être dans un trou, hein. Et en tout cas, on le sort une deuxième fois, et cette fois-ci, c'est sorti par, il a été jeté par les païens, on va dire, il a été jeté par les Égyptiens, et il est sorti par les Égyptiens. Donc avec ces deux sorties de fosse, on a un symbole de la résurrection du Christ, puisque Joseph est dans l'Ancien Testament celui qui ressemble le plus au Christ. Et avec en plus le changement des vêtements, le rasage, donc c'est vraiment la gloire maintenant. Donc le voilà honoré auprès du Pharaon. Il va donner la gloire à Dieu, déjà le verset 16, puisque le Pharaon dit « J'ai entendu que toi, tu peux comprendre un songe pour l'interpréter », verset 15. Et Joseph répondit au Pharaon disant « Ce n'est pas à moi, Dieu donnera une réponse de paix au Pharaon. » Déjà tout à l'heure, les interprétations ne sont-elles pas à Dieu. Donc il donne toujours la gloire à Dieu. Et il va continuer, puisqu'il va parler de Dieu au verset 25. « Le songe de Pharaon est un. Dieu a déclaré au Pharaon ce qu'il va faire. » Et c'est un seul songe. Et verset 28, c'est la parole que je dis au Pharaon. Ce que Dieu va faire, il le montre au Pharaon. Et verset 32, qui est de nouveau très émouvant pour Joseph. Quoique là, ça commence à prendre un peu forme, mais enfin, il est juste devant le Pharaon. Il ne sait pas si on le renvoie en prison dans un quart d'heure. Hein. Et qu'est-ce qu'il va dire au Pharaon? Verset 32. Et que le songe ait été répété deux fois au Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et qu'il se hâte de la faire. Donc, il y a 2 ans en prison, il avait annoncé à l'échanson, c'est pendant 3 jours, mais lui, ça fait 11 ans que ça traîne. Et là, devant le Pharaon, il dit, mais quand il y a 2 rêves, alors c'est que c'est sûr et que Dieu va faire vite. Et lui, il a eu combien de rêves? 2 aussi. Il avait eu le rêve des gerbes et le rêve des étoiles, la lune et le soleil. Donc il a eu 2 rêves, et quand il y a 2 rêves, c'est que c'est sûr, mais que ça va vite. Et là, ça commence à faire 13 ans. Mais voilà, il n'y a pas d'amertume. Et il parle de Dieu au point que le Pharaon lui-même, verset 38, « Trouverons-nous un homme semblable à celui-ci, en qui est l'esprit des dieux ?» Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, personne n'est intelligent comme toi, et il le nomme premier ministre. Donc là, effectivement, il est honoré. Et il reçoit une épouse. Ah ben ça, c'est sympa, parce qu'en plus, Asnath, c'est la fille d'un... Alors j'ai appris cette semaine avec les Égyptiens de Leverkusen que c'est Héliopolis, en fait. Donc On, sacrificateur d'On, la ville du soleil. On est en plein, à côté du Caire, Héliopolis. Il y avait une lettre de recommandation de l'église de Héliopolis, dimanche. Et effectivement, cette Asnath, elle est fille de Potiphéra, sacrificateur d'On, dieu de la lumière, verset 50, du chapitre 41, chapitre 41, verset 50. Et avant que vînt l'année de la famine, il naquit à Joseph 2 fils, qu'Asnath, fille de Potiphéra, sacrificateur d'On, lui enfanta. Il a refusé la femme de Potiphar, il a bien fait. Il était courageux, il a fui, il a dit non. Et quelques années plus tard, il reçoit cette merveilleuse épouse qui était sûrement une princesse. Et ils ont 2 petits garçons, tout mignons. Le premier s'appelle Manassé. Et quand il appelle ses enfants, eh bien, on voit un peu comment, quel est son état d'esprit. Son premier garçon, il l'appelle Manassé, qui veut dire « oublie », parce que Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Il est dans la reconnaissance. Il est dans ben, « le chemin a été dur, mais quelle merveilleuse épouse et quel merveilleux petit garçon. Et finalement, j'ai oublié toute cette chose tellement terrible. » Donc on a un remède ici contre l'amertume, c'est la reconnaissance. Et il continue dans cet état d'esprit positif, puisque le deuxième petit garçon arrive et il l'appelle Éphraïm, qui veut dire double fertilité. Mais il est heureux, il est content. Son papa, il a eu 12 fils. Lui, ben, pour le moment, c'est une petite famille, 2. Mais c'est pas grave. Double fertilité. C'est positif. Ce deuxième, il est génial. C'est mon deuxième. Double. Donc il y a un côté enthousiaste et reconnaissant chez Joseph. Donc le voilà honoré, malgré toutes ses blessures, eh bien, il oublie sa peine, il est reconnaissant, il oublie ce chemin douloureux, et il est dans la reconnaissance. Reconnaissance à Dieu de ce qu'il nous offre, pour nous oublier aussi ce que les hommes nous ont fait, parce que s'il y a eu des blessures, c'est les hommes qui les ont faites, mais Dieu, lui, nous donne beaucoup de choses, et cette reconnaissance envers Dieu, eh bien, cela nous garde de l'amertume de ce que les hommes nous ont fait. Alors, l'histoire continue, et évidemment, ses frères vont arriver, parce qu'il va y avoir les années d'abondance, et puis après, il va y avoir les années de famine, et dès le début des années de famine, assez vite, c'est les frères de Joseph qui débarquent. Ils débarquent, et verset 6 du chapitre 42, « Et Joseph était gouverneur du pays, il vendait le blé à tout le peuple du pays, et les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Et Joseph vit ses frères et les reconnut, et il fit l'étranger vis-à-vis d'eux. » Alors, oui, c'est le verset là. Et il fit l'étranger vis-à-vis d'eux, et leur parla durement, et leur dit « Mais d'où venez-vous » Et ils dirent « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Et Joseph reconnut ses frères, et eux ne le reconnurent pas. Et Joseph se souvint des songes qu'il avait songés à leur sujet, et il dit « Vous êtes des espions. » Alors pourquoi le fait de se souvenir précisément des songes fait qu'il démarre maintenant tout un processus qui va être assez long de réconciliation, alors qu'il aurait pu dire, mais ça y est, mes songes sont accomplis, donc ben ça y est, on y est, bon. Quel est l'indice qui fait qu'il a dit, non, le songe n'est pas accompli? Il y a un indice qui fait que, non, les songes ne sont pas accomplis. Combien il avait de frères en face de lui? 10, alors que le songe disait 11. Donc, quand on est précis, il faut être précis. Et son grand-papa, Abraham, il n'avait pas toujours été très précis, et il a fallu que Dieu précise bien, non, non, c'est bien avec ta femme que tu auras un bébé. Pas question d'aller avec une autre, etc. Donc la précision, quand Dieu a dit c'est 11, c'est pas 10. Et donc quand il voit qu'il en a 10 devant lui, il se dit, il faut que Benjamin vienne. Il faut absolument que Benjamin vienne. Il faut trouver un moyen pour que Benjamin vienne, sinon on n'y est pas. Et donc, il va y avoir tout le processus. Et dans tout ce processus, qu'on ne va pas lire, parce que malheureusement, on n'a pas le temps, mais ça aurait été intéressant, on voit que, bien sûr, il les travaille. Et en fait, il va les travailler un petit peu dans tous les sujets qui ont été leur cas il y a 20 ans, quand il l'avait vendu. Donc, il y aura la question de l'argent, par exemple. Il y aura verset 19, « Si vous êtes d'honnêtes gens, hein, nous sommes d'honnêtes gens. » Eux, ils essayent de dire qu'ils sont d'honnêtes gens. Donc, il dit, si vous êtes d'honnêtes gens, on verra. L'un de vous qui êtes frère sera lié dans la maison où vous avez été sous garde et vous allez emporter du blé pour la fin de vos maisons. Et amenez-moi le plus jeune de vos frères, et vos paroles se trouveront vraies, et vous ne mourrez pas. » Au début, il leur dit, vous restez tous ici, vous en renvoyez un et qui ramène Benjamin. Et il les met 3 jours au cachot. Et puis sûrement, pendant les 3 jours, il se dit, mais mince, mais s'il n'y en a qu'un seul qui y va, comment on fait pour nourrir grand-papa? Comment on fait pour nourrir maman Léa et tout le monde? Donc 3 jours plus tard, il change d'avis. Il dit, moi je crains Dieu. J'en garde un seul, et il y en a 9 qui repartent pour nourrir vos familles. Pour nourrir, donc il a, on voit cette générosité, on voit ce grand cœur. C'est plein d'amour, donc toutes ces scènes, des fois quand on les lit, on dit, oh, mais qu'est-ce qu'il est dur, mais il n'est pas dur du tout. Il est plein d'amour, il veut juste que tout se passe bien. Et donc, emportez du blé pour la fin de vos maisons, et amenez-moi le plus jeune de vos frères. Et puis alors, c'est là que, il les entend parler, verset 21, ils se dirent l'un à l'autre, mais certainement nous sommes coupables. à l'égard de notre frère. Donc juste avant, ils étaient d'honnêtes gens. Et maintenant, ils sont coupables. Ah tiens, il y a peut-être un peu de changement. Des choses qui se passent. Et nous avons eu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce. Donc ils se souviennent, il y a 20 ans, quand il nous demandait grâce, là, au fond de la fosse, avant qu'on l'y jette, ou quand on l'a vendu. Et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi cette détresse est venue sur nous. Et Ruben leur répondit, disant, « Mais ne vous ai-je pas parlé, disant, ne péchez pas contre l'enfant. Je vous l'avais bien dit. » Donc ce côté aussi, hein, dans les relations familiales, « Je vous l'avais dit, etc. » Et on se critique les uns les autres. « Mais vous ne m'avez pas écouté, et voici son sang est redemandé. » Et ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il y avait entre eux un interprète, et il se détourna d'auprès d'eux et pleura. Et revint vers eux et leur parla, et prit avec eux Siméon et le lia devant leurs yeux. Donc ses pleurs sont la preuve de son amour. Hein, pas que les sacs de blé pour la famille, mais aussi les pleurs. Donc il montre de l'amour. Si des croyants nous ont fait du tort, ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'Église, conservons notre amour pour eux. Et mettons tout en œuvre pour permettre une réconciliation. On sait que Joseph, lui, il avait sûrement déjà pardonné, on en parlait tout à l'heure avec Philippe, pardon et réconciliation, c'est deux choses différentes. Lui, Joseph, il avait sûrement pardonné, on voit bien que son état d'esprit était dans le pardon. Mais bien sûr, pour retrouver ce lien avec ses frères, il y a besoin maintenant d'une réconciliation. Et il leur montre de l'amour. En donnant de l'amour, eh bien, même si cette réconciliation peut durer longtemps, peut-être plusieurs années, ici c'est en tout cas plusieurs mois, eh bien, on donne de l'amour plutôt que de le retenir, même s'il y a eu de la blessure. Donc il prie, c'est Siméon qui garde, donc il les met un peu dans la même situation qu'il y a 20 ans, où il y a un fils qui manque, et tous les autres qui rentrent chez le papa. Là, il a pris Siméon, alors peut-être, faut se souvenir que Ruben, effectivement, avait essayé de le délivrer. Donc le fils aîné juste après Ruben, c'est Siméon, donc c'était lui le responsable. Donc c'est un peu normal que ce soit le Siméon qui soit gardé ici. Mais il les replace dans la même situation qu'il y a 20 ans. Et on sait qu'ensuite, ils vont retrouver leur argent, donc ça va les travailler aussi dans leur tête, la question de l'argent, puisqu'ils l'avaient vendu, Joseph. Et puis on sait qu'ensuite, le vieux papa ne veut pas renvoyer Benjamin. Alors des fois, on pense que Benjamin est un petit jeune homme. Hein. Pas un petit jeune homme, hein. Il a 10 ans. Il a 10 fils. Il a 10 fils, et il a 32, 33, 35, on ne sait pas bien, hein, mais environ, puisqu'il y a environ 6, 7, 8 ans entre Joseph et son petit frère, peut-être un peu plus, donc suffisamment pour qu'ils se connaissent, qu'ils se souviennent de son petit frère, hein, un petit frère de 8 ans peut-être, ou de 9 ans, on s'en souvient, mais on ne l'a plus vu depuis 20 ans, Donc il a envie de le revoir, mais le vieux papa ne veut pas l'envoyer. Alors il y a un des frères qui propose de tuer ses deux propres enfants, c'est Ruben, c'est très intéressant. Ruben, il dit, si je ne te le ramène pas, tu pourras tuer mes deux petits-enfants. Alors ça, c'est une grande consolation pour le grand-papa. Hein, hein, comme ça, si déjà je perds mon fils, je vais tuer mes deux petits-fils, comme ça, ça va me consoler. Donc ça n'a pas du tout convaincu le vieux Jacob. Et puis il y en a un autre, et c'est Judas, qui va lui parler de vie. Qui va lui dire « Je partirai, je m'en irai, nous vivrons !» Et il va se porter garant. Donc on a un Judas qui prend les devants et qui va avoir une très 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 beau, une très très belle phrase auprès de son papa pour le convaincre. Verset 9 du chapitre 43, « Moi je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne te le ramène, je serai tous les jours coupable devant toi. Donc si je ne te ramène pas ton fils bien-aimé, je serai coupable. » Vous voyez là, le chemin parcouru par rapport à il y a 20 ans où ils avaient fait semblant qu'il était mort en trempant sa tunique dans du sang. Verset 8, « Judas dit à Israël, son père, envoie le jeune homme avec moi et nous nous lèverons et nous irons et nous vivrons et ne mourrons pas, ni toi, ni nous, ni toi, ni nos petits-enfants. » Donc c'est le, C'est le schéma opposé du schéma de Ruben. Hein, c'est, Ruben, c'est peut-être un symbole de la loi, et lui, c'est la grâce. En tout cas, c'est un chemin d'amour, un chemin de vie, un chemin de confiance. Et Jacob, Israël, va se laisser convaincre, va le laisser partir, va laisser partir son grand petit garçon, son Benjamin, et donc il va y avoir ces scènes très très émouvantes où Joseph retrouve son petit frère, est très 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 ému, et s'en occupe. Et ensuite, tout a l'air de bien se terminer pour les frères, et au chapitre 44, rebelote, de nouveau un montage avec la coupe, et c'est le sac de Benjamin qui est découvert avec la coupe dedans. Et là, verset 13 du chapitre 44, alors verset 12, il commença par l'aîné et finit par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Elle a été mise, bien sûr, par le serviteur de Joseph. C'est un montage pour les faire travailler sur le sujet de la famille et du frère, du petit frère, qu'est-ce qu'on fait ? Et ils déchirèrent leurs vêtements et chacun rechargea son âne et retourna à la ville. Le seul chemin, c'est d'aller vers celui qui condamne. Le seul chemin, c'est d'aller vers Joseph pour trouver le salut. Et ils envisagent, ils disent, verset 16, « Que dirons-nous à mon Seigneur ? Comment parlerons-nous ? Comment nous justifierons-nous » Au début, ils étaient d'honnêtes gens. Maintenant, ils disent, on ne va pas se justifier. On n'essaye même pas. Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Ça, c'est vraiment la confession de tout ce qu'ils ont fait il y a 20 ans. Ils n'ont pas de raison de donner des détails à cet étranger. Hein, faut pas aller chercher la petite bête. Là, on a vraiment confession totale. Et surtout, c'est l'attitude qui va bien sûr démontrer que c'est extrêmement profond. Et voici, nous sommes serviteurs de mon Seigneur, tant nous que celui dans la main duquel la coupe a été trouvée. Donc, on reste tous. Et dernier test, Joseph, loin de moi de faire ça. Celui en la main duquel la coupe a été trouvée sera mon serviteur. Et vous montez en paix vers votre père. Il y a 20 ans, vous êtes bien monté en paix vers votre père, avec les petits qui manquaient. Et avec, en faisant semblant qu'il était mort. Allez-y, partez, laissez-le, montez en paix. Donc on est dans la même situation, c'est tout pareil. Donc on comprend maintenant pourquoi, on comprend pourquoi il y a tant d'amour derrière, il a tout mis en scène pour que ça se passe comme ça, et c'est absolument extraordinaire la façon dont Judas va bien sûr réagir. Alors, on ne va pas lire le plaidoyer de Judas, c'est un des grands chapitres de la Bible, 14 fois il va parler du Père. 14 fois dans ce paragraphe de 18 à 34, il va parler du Père. Donc Judas, le fils Judas, il est tellement rempli maintenant de l'amour du Père et de l'amour du Père pour Benjamin et lui de son amour pour son Père et de ce qu'il a promis à son Père, c'est extraordinaire. Et son Père l'aime, son Père est attaché à lui. Donc plein de très très belles choses. Et à la fin de ce très très beau plaidoyer, verset 32, « Car ton serviteur Judas a répondu du jeune homme auprès de mon père, Bürgegeworden. Je donne ma caution. Je me suis porté caution. C'est moi, je m'engage donc, puisque je me suis porté caution auprès de mon papa, eh bien je serai coupable si j'y vais pas. Donc c'est moi qui reste, verset 33. Je reste serviteur de mon Seigneur à la place du jeune homme. Et le jeune homme montera avec ses frères. Donc maintenant, tout est retourné, et c'est Judas qui se propose de s'offrir à la place de son petit frère. Quel chemin parcouru ! Le Seigneur Jésus descend de la tribu de Judas, et bien sûr, il s'offre pour que nous soyons libérés. Et donc, on arrive aux deux dernières leçons de Joseph, c'est que dans tout ce processus, au moment où il va se faire connaître, verset chapitre 45, verset 3, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Et ses frères ne pouvaient lui répondre. car ils étaient troublés devant lui. Et Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour l'Égypte. La chose est dite. Il a appris pendant le plaidoyer, la première fois qu'il l'entendait, que son papa croyait à une histoire de bête féroce. Lui, il ne sait pas qu'il y a eu un mensonge, qu'il y a eu une histoire de bête féroce. Mais c'est Judas qui lui dit, oui, le papa pense qu'il ne l'a pas revu, puisque il a sûrement été déchiré. Donc il a appris ça. Maintenant, les choses sont dites, vous m'avez vendu. Donc tout est dit, la lumière est faite. Ne soyez pas attristés, ne voyez pas d'un œil chagrin que vous m'ayez vendu ici, car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Hein? Car voici 2 ans que la famille est dans le pays, et il y a encore 5 ans pendant lesquels il n'y aura ni labour ni moisson, et Dieu m'a envoyé devant vous 2 pour vous conserver de reste sur la terre, et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu, 3. Et il m'est établi père du Pharaon et seigneur de toute sa maison. Donc Joseph, dans sa vie, pour éviter l'amertume, dans sa vie où il a été blessé, où il a été meurtri, en fait, il voit la main de Dieu derrière. Il la voit tellement que ça lui change toute sa perspective. Et il les rassure en leur disant ça. Toute la perspective de sa vie, s'il y a eu des souffrances, s'il y a eu ça qui s'est passé, s'il y a même des gens qui m'ont fait du mal, des gens m'ont fait du mal, et dans son cas, des gens de sa famille, à la fin, c'est quand même Dieu qui était derrière. Romains 8, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À la fin, Dieu agit dans ma vie. Et si je me retourne, oui, il y a eu des souffrances, mais finalement, Dieu agit dans ma vie. Dieu amène ça. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Et donc, on a un remède immense contre l'amertume. C'est de voir la main de Dieu dans nos vies, même s'il y a eu des blessures, même s'il y a eu des espoirs déçus. On a eu des espoirs et la bulle de savon a éclaté. Les hommes nous ont maltraités. Eh bien, si nous avons la conviction que Dieu conduit toutes choses dans nos vies, eh bien, cela nous garde de l'amertume. Et au chapitre 50, le vieux papa est décédé. Ils se sont revus, ils ont passé beaucoup d'années ensemble. Et puis, le vieux papa est décédé et au moment de sa mort, eh bien, verset 17, chapitre 50, verset 17, vous direz ainsi à Joseph, « Pardonne, je te prie, la transgression de tes frères. » Voilà que les frères, après la mort de Joseph, de Jacob, viennent voir Joseph en disant, « Maintenant que le papa est mort, peut-être que les situations de la famille vont se tendre. Hein, » Et des fois, on a un peu crainte au moment où des grands-parents partent. Est-ce qu'on va garder l'unité de la famille ? Et ils ont cette crainte, ils se disent, mais est-ce que Joseph ne va pas maintenant manifester sa rancœur, manifester son amertume, manifester une vengeance ? Est-ce qu'il n'a pas gardé ça juste après la mort du papa ? Donc soit c'est vraiment Jacob qui l'a fait, hein, verset 16, en disant, ton père a commandé avant sa mort, disant, soit c'est eux qui l'inventent, je ne sais pas, mais en tout cas, pardonne, je te prie, la transgression de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Et maintenant, pardonne, nous te prions, la transgression des serviteurs du Dieu de ton père. Et Joseph pleura quand ils lui parlèrent. Son amour est toujours là. Et ses frères aussi allèrent et tombèrent sur leur face devant lui et dirent, nous voici, nous sommes tes serviteurs. Mais lui, il ne veut pas de serviteurs, il veut des frères. Verset 19, et Joseph leur dit, mais ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu. Vous, vous aviez pensé du mal contre moi. Dieu l'a pensé en bien. Donc il y a eu du mal, et Dieu, lui, la pensée en bien. Dieu l'a pensée en bien. Pour faire comme il en est aujourd'hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. Verset 21. Et maintenant, ne craignez point. Moi, je vous entretiendrai, vous et vos petits-enfants. Et il les consola et parla à leur cœur. Donc le côté de prendre soin de ses frères, de les entretenir, de faire du bien. Voilà quelqu'un qui ne cultive pas de rancune. Et la personne qui lui a fait du mal, il va lui faire du bien. Et il se dit, Dieu a transformé ce mal en bien. Eh bien, quelqu'un qui m'a fait du mal, moi, je vais lui faire du bien. Je vais l'entretenir, je vais m'occuper d'eux. Et donc, si nous savons que Dieu transforme ce mal qui a pu être fait et qu'il le fait transformer en bien, si on a cette conviction, eh bien, ça nous donne aussi la liberté de faire du bien à celui qui nous a fait du mal. Donc, il y a eu 9 leçons. Donc, je les reprends maintenant toutes lentement. Le frère avait mis 7 parties, mais je pense que c'est parce qu'il avait envie que ça fasse 7. Au début, j'ai dit, oh, putain, c'est génial, il y a 7 parties, il va y avoir 7 leçons, mais à la fin, il y avait 9 leçons. Je dis, voilà. Alors, on va oublier les 7 parties. Il y a 9 leçons, mais je ne vous l'ai pas dit au début. Parce que sinon, 1, vous auriez compté, 2, vous auriez, oh là là, ça va être long, 9 leçons. Alors, on les reprend. Donc, si on veut éviter l'amertume. Dans un chemin difficile, ne sombrons pas dans l'apitoiement sur nous-mêmes. Mais remplissons fidèlement notre tâche. Dieu nous bénit et fortifie notre espérance. Il s'est mis au boulot et il était un super travailleur. Hein? Avec la femme de Potiphar, ne compensons pas la pression des circonstances difficiles par des plaisirs malsains qui nous mettront par terre et seront plus amers que la mort. C'était le 2. Quand nous sommes chargés, le 3, le Seigneur nous aide à nous occuper d'autres personnes. Non seulement elles en profitent, mais cela distrait aussi nos cœurs de nos propres souffrances. 3. 4. Les rêves, la liberté. Sommes-nous prêts à offrir à d'autres ce que nous espérons pour nous-mêmes? Pouvons-nous nous réjouir avec ceux qui se réjouissent? Ce sera une protection contre l'amertume. 5. La discrétion. Gardons-nous de colporter les mauvaises actions de ceux qui nous ont fait du tort. Protégeons-les. Ne passons pas du temps à détailler le mal. Cela aussi, ça nous protège contre l'amertume. Au moment où il est honoré, 6, recevons avec reconnaissance ce que Dieu nous offre. La reconnaissance, cela nous fait oublier ce que les hommes nous ont fait ou ce qu'ils nous ont refusé. Hein? Ah, on ne m'a pas fait ça, on ne m'a pas donné ça. Et je recherche toutes ces choses que je n'ai pas eues, ou les choses qu'on m'a fait en mal. Et bien là, on reçoit avec reconnaissance ce que Dieu nous offre. Cela nous garde de l'amertume. 7. Si des croyants nous ont fait du tort, conservons notre amour pour eux dans le but d'une réconciliation, même si ça peut durer des années. Dans ce cas-là, c'était des années, effectivement, mais le processus a duré des mois. 7, c'était l'amour. 8, quand nos espoirs sont déçus, que des hommes nous traitent mal, nous évitons l'amertume, si nous savons que Dieu conduit toutes choses pour notre bien. Dieu conduit toutes choses. Et enfin, 9, si nous savons que Dieu utilise le mal fait par les hommes pour nous bénir, eh bien nous serons libres de leur faire du bien. Voilà. Et s'il n'y a pas de racines, il n'y aura pas de bourgeons.